Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.
Game Radio.
Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting.
Salut à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans l'épisode 5 de Culture Cube. Finissons aujourd'hui notre thématique Survival Horror avec un jeu un petit peu particulier, Eternal Darkness Sanity's Requiem. Un jeu sorti en novembre 2002 et développé par Silicon Knights, un studio canadien connu pour Blood Omen Legacy of Kain sur PlayStation et qui eut ensuite l'honneur de diriger le remake de Metal Gear Solid sur GameCube avant de rompre son contrat et de filer chez Microsoft. Pour bien saisir la particularité d'Eternal Darkness, on peut s'attarder sur son sous-titre, Sanity's Requiem. Littéralement, il signifie « le requiem de la santé mentale ». Un requiem est une messe des morts, le plus célèbre exemple étant le requiem de Mozart, dont vous pouvez entendre une partie dans la scène d'introduction de X-Men 2. Le sens de l'expression serait alors « dites adieu à votre discernement et préparez-vous à sombrer dans la folie et les hallucinations ». Un programme certes peu engageant, mais qui résume bien l'esprit d'un jeu qui s'inspire ouvertement d'Edgar Allan Poe, la citation qui ouvre ce podcast est tirée du poème The Raver, et surtout d'H.P. Lovecraft, qui a inspiré plusieurs personnages et éléments du scénario, notamment grâce à l'appel de Cthulhu et au cauchemar d'Innsmouth. Plus précisément, le scénario se penche sur le personnage d'Alexandra Roivas, une jeune femme dont l'oncle Edward vient d'être sauvagement assassiné. Comme l'enquête piétine, elle décide d'enquêter dans le manoir de son oncle. En plus des recherches d'Edward sur les sciences occultes, elle y découvre quantité d'horreurs. Alors, présenté comme ça, on pense immédiatement à Resident Evil, le premier du nom. Mais la ressemblance avec le titre de Capcom s'arrête ici, car Eternal Darkness développe une ambiance et un scénario atypique dans le monde du jeu vidéo, et s'autorise même quelques originalités de gameplay qui rendent l'expérience assez étonnante. En fait, deux éléments principaux structurent le jeu. D'une part, on n'incarne pas en permanence Alex Roivas. En effet, celle-ci découvre petit à petit les pages d'un livre, appelé le Livre des Ténèbres Éternelles, d'où le titre du jeu, qui raconte la lutte entre des forces occultes et démoniaques, dont certaines veulent détruire le monde pour s'en emparer. À chaque nouvelle page découverte, on incarne un personnage différent à une époque passée. On commence ainsi par un légionnaire romain, puis on enchaîne avec une danseuse asiatique, puis un écuyer de Charlemagne, etc., etc. Cela permet de donner du souffle au scénario en le développant sur une période colossalement longue et de visiter des environnements différents. Deuxième principe fondamental, en plus d'une barre de vie et d'une barre de magie sur laquelle je reviendrai plus tard, on dispose d'une jauge de folie. Celle-ci apparaît lorsque vous croisez un ennemi et se vide petit à petit tant que vous n'avez pas tué celui-ci. Plus l'ennemi est atroce et plus il vous vide rapidement de votre santé mentale. Lorsque la jauge tombe à zéro, vous subissez des hallucinations diverses et variées, allant de la caméra qui se tord à votre propre décapitation en direct, en passant par une modification de votre taille en devenant tout à coup soit minuscule, soit gigantesque. C'est très original et c'est surtout stressant quand ça arrive au milieu d'un combat. Quelques autres particularités sont à noter. Par exemple, le système de combat est très souple et vous permet de viser précisément une partie du corps d'un ennemi. Les décapiter les rendra ainsi aveugles, tandis que leur couper les bras les rendra inoffensifs. De plus, un sympathique système de magie est présent. On trouve au fil de l'aventure des runes, ainsi que des codex pour les déchiffrer. Vous n'avez plus ensuite qu'à assembler les runes pour créer des sorts qui vous permettront soit de vous soigner mentalement et physiquement, soit d'enchanter des armes et des objets pour tuer des ennemis spécifiques ou résoudre des énigmes. Le tout va vous pomper plus ou moins de magie dans votre jauge. Malheureusement, la réalisation nous laisse un peu sur notre faim. A l'origine, en fait, le jeu était prévu pour la Nintendo 64 avec l'Expansion Pack, et il était bien avancé, ainsi que l'attestent les nombreuses vidéos qu'on peut trouver sur le net. mais la durée du développement a contraint Silicon Knights à changer ses plans et à porter son travail sur GameCube. La qualité graphique s'en ressent puisque l'ensemble est assez flou, avec des textures pauvres et grossières et des animations tout juste correctes. L'option 60 Hz est présente, ainsi que le 16/9, mais ce dernier découpera les cinématiques dans un cadre noir, ce qui n'est pas très agréable. En revanche, l'aspect sonore est plus que convaincant, et si j'osais, j'irais même jusqu'à dire que sur ce point, Eternal Darkness met une grosse claque à Resident Evil Rebirth. Les doublages anglais sont absolument impeccables, et à des musiques angoissantes à souhait s'ajoutent les bruitages les plus terrifiants qu'il m'ait été donné d'entendre. Alors me voici donc devant le jeu, et j'ai choisi de faire un petit peu dans l'originalité, puisque je vais chevaucher en fait trois parties différentes du jeu. C'est-à-dire que là je suis déjà en plein milieu d'un chapitre, je vais le finir, ça va enchaîner sur une petite partie dans le manoir, et ensuite le début du chapitre suivant, qui va me permettre un peu de montrer les différentes particularités du jeu, que ce soit le système de combat, le système de magie, le manoir, le livre des ténèbres éternelles, etc. etc. Donc là en fait je suis en train d'incarner une jeune danseuse asiatique qui est dans un temple paumé au fin fond de la jungle. Elle s'est retrouvée là-dedans tout simplement parce qu'elle s'ennuyait, elle voulait vivre une aventure, et elle s'est retrouvée bloquée dans le temple en essayant de s'en sortir. Elle est tombée sur Mantorok, qui est un dieu qui est qualifié de dieu mort, et un personnage étrange et mystérieux m'a confié l'une des essences de Mantorok, c'est-à-dire l'un de ses cœurs, parce que le légionnaire, qui est un des personnages clés du jeu, qu'on retrouve à plusieurs reprises, quasiment dans tous les chapitres en fait, le légionnaire souhaite récupérer les essences, donc les cœurs de Mantorok, pour se les approprier et enlever toute la puissance à ce dieu. Alors on sait pas trop pourquoi à ce moment-là, et puis même si on le savait, ce serait un peu spoilé. Et donc en fait, bien, on se retrouve protectrice d'une des essences de Mantorok. Et là, en fait, j'essaie de sortir du temple en résolvant une énigme. J'ai récupéré une barre métallique que je vais utiliser pour actionner un levier qui va me permettre d'ouvrir une porte. Et après, une porte dans une autre salle. Et après, je pourrais prendre cette porte pour sortir. Donc là, on monte la petite cinématique, j'ai actionné le levier, je vois la porte qui s'ouvre à l'autre bout du temple. Et je vais y retourner. Et c'est très bien parce qu'en fait, j'ai fait exprès de ne pas tuer les différents monstres qui sont présents. Ce qui fait que ma jauge de folie, là, elle est quasiment à zéro. Et déjà, l'angle de caméra commence à se tordre. Sachant que dans le jeu, on n'est pas avec des caméras fixes comme dans Resident Evil. On ne peut pas non plus modifier l'angle de caméra comme on veut, mais la caméra nous suit de manière relativement fiable d'ailleurs. C'est pas un point fort du jeu, mais c'est assez intéressant à noter. La caméra continue de me suivre, mais comme si tout était tordu en fait. Sachant qu'en plus il y a encore d'autres monstres. Regarde là, hallucination, c'est-à-dire que je suis en train de grandir, les décors se rapetissent selon. Et en fait, je ne peux plus passer par la porte. Et il y a une sorte de flashback qui me fait revenir en arrière et qui fait apparaître de nouveaux monstres. Donc voilà, ça fait partie des petites particularités, des petites originalités du gameplay. Quand on a des hallucinations, ça change en fait la manière de jouer parce qu'on a plus de difficultés à avancer. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc j'ai réussi à arriver à la porte que j'avais ouverte derrière Mantorok. Et malheureusement, ça n'est pas la sortie, mais une sorte de piège, puisque c'est une salle fermée où m'attend le légionnaire. Alors, le légionnaire, encore une fois, personnage très important, je ne vais pas vous dévoiler pourquoi c'est un légionnaire et qu'est-ce qu'il fait là. Enfin, visuellement, en fait, c'est une sorte de zombie en costume de légionnaire romain. Et donc là, et comme je vous disais, il veut récupérer l'essence de Mantorok qu'on m'a confiée. Sauf que je ne vais pas parler et il va me lancer un sort. Alors, c'est quasiment à chaque chapitre, en fait, les personnages qu'on incarne ont un destin pas très joyeux. Très souvent, ils se retrouvent prisonniers, enfin, pas tués, mais on leur jette des sorts, tout simplement parce que le livre des ténèbres éternelles, en fait, nous raconte une histoire qui nous amène jusqu'à l'an 2000, mais s'il y a encore les ténèbres éternelles qui se rapprochent en l'an 2000, ça veut bien dire que dans le passé, ça a foiré un petit peu quand on les combattait. Donc régulièrement, en fait, on finissait le chapitre où il vous arrive quelques bricoles. Et alors la chose très intéressante, on se retrouve dans le manoir, donc je dirige à nouveau Alex Roivas. Et bien dans la partie que je viens de, le chapitre que je viens de finir, il y avait un système d'énigmes avec des bougies. Et dans la pièce où je suis dans le manoir, il y a aussi la même énigme avec des bougies. Et comme je l'ai réussi à la, comme j'ai réussi à la résoudre dans le passé, bien je peux maintenant réussir à la résoudre dans le présent. Et en résolvant l'énigme avec ces bougies, et bien je récupère une nouvelle page du livre des ténèbres éternelles, ce qui va me permettre d'avancer, d'aller dans un nouveau chapitre du jeu. En attendant, petite cinématique, on retrouve encore une fois le légionnaire avec en face de lui l'un des grands méchants du jeu. Alors je vais pas vous décrire précisément comment il est ni qui c'est, sachant que encore une fois c'est très très largement inspiré des romans et des nouvelles d'H.P. Lovecraft. Si vous avez lu L'Appel de Cthulhu, Le Cauchemar d'Ithulhu, Le Masque de Cthulhu, enfin ce genre de choses, vous ne serez pas dépaysé, c'est très très proche et grandement inspiré. Et donc là, le grand méchant, en fait, parle forcément de Mantorok, du fait que le légionnaire n'ait pas réussi à récupérer l'essence, et il commence à parler de Charlemagne, donc oui, le fameux Charlemagne, empereur à la barbe fleurie, qui a inventé l'école, sauf qu'ici ça va être beaucoup moins marrant, puisque il projette de s'en débarrasser, tout simplement. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les ténèbres éternelles ont pour vocation d'envahir le monde, et tout ce qui peut les en empêcher doit être détruit. Or, Charlemagne a quand même unifié l'Europe en mettant en place un système judiciaire, un système d'éducation, une administration centralisée, etc. Enfin, il a amené la paix au continent européen, donc forcément, ça ne réjouit pas nos chers amis démoniaques, et donc ils projettent de le tuer. On revient là dans le manoir, et Alex va, je vais tout simplement lire la page que je viens de trouver, qui justement, comme par hasard, concerne Charlemagne, sauf qu'on n'incarne pas Charlemagne, mais on va incarner Anthony, qui est un écuyer de l'empereur. Et avec une petite cinématique où un moine un peu étrange et pas très rassurant, on ne voit pas vraiment le visage, nous confie une lettre en nous disant que il n'y a que Charlemagne qui doit la lire, ou en tout cas il doit la lire en premier, et c'est d'une très grande importance. Donc forcément ça n'inspire pas vraiment confiance, un moine comme ça, des yeux tout blancs, qui a le visage tout gris, masqué par une capuche et qui vous donne un ordre. En général, vous avez quelques répugnances à les suivre en fermant les yeux. Donc, Anthony, en bon écuyer, va s'assurer que le colis n'est pas piégé. Et il ouvre la lettre. Et effectivement, c'est une lettre ensorcelée et il se prend le sort en pleine poire. Quand je vous disais que les personnages qu'on incarne, il leur arrive souvent des bricoles, c'est le cas ici. Et donc du coup, Anthony, enfin on décide d'aller prévenir Charlemagne qu'il est en danger, puisque on lui envoie un colis piégé, c'est quand même pareil. Nous sommes donc après dans la cathédrale d'Amiens. Ce que j'ai pas précisé, mais ce chapitre se déroule à Amiens, cocorico. Soit dit en passant, on voit bien là l'un des atouts du jeu, c'est-à-dire que ça nous permet de visiter, enfin, les différents chapitres nous permettent de visiter des lieux, des époques extrêmement différents, et même si au niveau visuel, on ne voit pas systématiquement de grandes différences, d'autant plus que techniquement c'est quand même un jeu qui n'est pas très impressionnant. Mais voilà, ça reste, il y a quand même une certaine variété, notamment dans la physionomie des gens qu'on rencontre et leur accoutrement. Il y a eu un vrai travail de recherche qui a été fait. Au niveau des armes aussi, puisque là je récupère ce qui s'appelle un Scaramax. Alors vous pouvez vérifier, c'est une arme qui existe véritablement. Et en fait, les armes qu'on utilise dans le jeu correspondent vraiment à des armes emblématiques de l'époque dans laquelle on joue. Donc là, par exemple, on est à peu près aux alentours de l'an 800. Donc on a vraiment des armes médiévales. En fonction des époques, on va récupérer des armes totalement différentes. Alors je vois qu'on commence à manquer de temps. Je vais terminer, ça tombe bien, sur une petite cinématique. En fait, à plusieurs moments dans le jeu, le personnage qu'on incarne dans le passé va récupérer une partie, enfin un tome du livre des ténèbres éternelles dans une salle terrifiante, puisque le sol est composé de visages humains qui sont en train d'hurler. On récupère ce livre. Et c'est ce qui va permettre à Alex de retrouver ses pages dans le manoir, puisque le personnage qu'on incarne dans le passé récupère le livre, il le garde, et Edward Roivas va au fur et à mesure les retrouver, ces tomes, et les garder dans son manoir, les cacher. Et c'est pour ça qu'on peut les retrouver tous intégralement dans le manoir. Je vais finir là-dessus. Dans le jeu, je trouve des runes, des runes et un codex, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. On peut grâce à ça créer des sorts. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. J'étais à peu près complet sur ce jeu. Si vous avez l'occasion d'y jouer, vraiment, n'hésitez pas. C'est un jeu très atypique, en tous les cas parmi les survival horror, qui est à mon sens un bon complément à Silent Hill. En ce sens que c'est une sorte de retour aux sources. Vous pouvez voir en fait dans ce jeu tout ce qui a inspiré le côté malsain, et tout le côté avec les hallucinations qui est présent dans Silent Hill. Ici ça s'inspire en fait directement de tout ce qui est à l'origine, à savoir tous les romans d'horreur d'Edgar Allan Poe, d'H.P. Lovecraft, les romans américains de ces époques là. Vraiment quelque chose de... Enfin, un jeu vidéo qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà, c'était l'épisode 5 de Culture Cube. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Je ne sais pas encore sur quel jeu ça sera, mais rassurez-vous, je vais trouver très vite. Merci à vous et à bientôt.
Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.